Voilà à notre dernier dimanche dans la série, dans notre série sur Abraham, marcher par la foi, pas si facile que ça. Et en fait, c'est pas tout à fait notre dernier dimanche sur ce thème, parce qu'on va poursuivre un peu notre étude d'Abraham sur un plan un peu plus théologique et dans le Nouveau Testament pendant les 3 prochaines semaines, en le chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Vous allez voir, ça va être super intéressant de creuser encore plus notre étude d'Abraham. Pendant cette série, on s'est posé tout un tas de questions. Est-ce que Dieu tiendra ses promesses? Est-ce que le projet de Dieu se réalisera malgré toutes les épreuves, malgré toutes les menaces qui peuvent arriver? Faut-il pour nous apprendre à lui faire confiance? Quelle place ont les nations dans le programme de Dieu pour l'humanité? Et quel est le rapport entre l'histoire d'Abraham et l'évangile de Jésus-Christ? Voilà quelques questions qu'on s'est posées pendant la série. J'espère que notre étude nous a aidé à un peu mieux cerner quelques réponses à ces questions. Et on a vu comment l'histoire d'Abraham a servi de support pour nous enseigner quelque chose au sujet de Dieu, de Christ et de nous. Deux thèmes qui sont beaucoup ressortis, ce sont les thèmes de la foi et de la providence. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi ces deux thèmes qui étaient très présents. La foi et la providence. Le thème de la foi, on va pas mal en parler dans les prochaines semaines, donc je ne vais pas en parler maintenant. Mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus pour terminer notre série dans la Genèse sur ce thème de la providence. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la définition que Nicolas avait donnée de ce mot providence. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, providence? Cette définition, providence de Dieu, c'est sa capacité de diriger, de protéger et de prendre soin de nous en accord avec son plan bienveillant pour nos vies et pour le monde. La providence de Dieu, c'est la capacité de Dieu à diriger, protéger et prendre soin de nous en accord avec son plan bienveillant pour nos vies et pour le monde. Mais alors pourquoi ce thème, c'est un thème caractéristique de l'histoire d'Abraham? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et on va se poser deux questions cet après-midi. Ces deux questions sont les suivantes. Comment l'histoire d'Abraham nous montre la providence de Dieu et quel genre de réaction ça doit produire en nous, les découvertes qu'on a faites ou refaites dans l'histoire d'Abraham. Autrement dit, comment la providence change quelque chose, quel genre de réaction ça produit pour nous. Alors, on a un texte un peu long aujourd'hui. Donc, c'était pas évident pour moi de savoir comment organiser le contenu de ce texte. Donc, pardonnez-moi si je suis parfois un peu confus et surtout si on sélectionne quelques petits morceaux de notre lecture et on répondra pas à toutes les questions qui sont présentes dans ce texte. Mais on va survoler un petit peu la fin de l'histoire d'Abraham avec cette idée en tête, comment la fin de l'histoire d'Abraham nous montre la providence de Dieu. Alors, première question. Comment cette histoire nous montre la providence de Dieu. On va commencer par lire une section de la fin de l'histoire d'Abraham et je vous propose d'ouvrir vos Bibles en Genèse chapitre 23 et on va lire les versets 1 à 6 dans un premier temps. Donc la Genèse est le premier livre de la Bible et le chapitre 23, les 6 premiers petits numéros. Genèse 23, verset 1. Sarah vécut 127 ans. C'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleurait. Puis il s'éloigna de son corps et dit aux Hittites, « Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Les Hittites répondirent à Abraham, « Écoute-nous, Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. enterre ton mort dans celui de nos lieux de sépulture que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour que tu enterres ton mort. Et ensuite, les versets qui suivent sont l'explication de comment il réussit à trouver un tombeau. Et je reprends au verset 17 de ce chapitre, le champ d'Éphron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouvent avec tous les arbres qui sont dans le champ, dans la limite de son pourtour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham en présence des descendants de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent furent ainsi accordés comme propriété funéraire à Abraham par les Hittites. Que nous apprend ce chapitre 3? Eh bien, qu'avant de mourir, parce qu'on va voir qu'Abraham va lui aussi mourir dans les chapitres qui suivent, eh bien, Abraham va recevoir un petit bout de la terre qui lui était promise, le pays de Canaan. Il va pouvoir acheter un petit bout de la terre pour enterrer son épouse. Et ça, c'est une promesse de Dieu qui est en train de commencer à s'accomplir pour Abraham. Promesse de Dieu parce qu'en Genèse 12, quelques chapitres plus tôt, Dieu avait appelé Abraham à quitter sa patrie, quitter sa famille, rejoindre ce pays. Il lui promettait de lui offrir en héritage. Et on voit cette promesse qui est en train de s'accomplir. Le pays promis commence à devenir la propriété d'Abraham. Et ça, ben, ça a dû être vraiment encourageant pour Abraham de se dire que son épouse et lui pourraient être enterrés sur la terre qui lui était promise. Donc la promesse de Dieu faite à Abraham est en train de s'accomplir. Mais Dieu avait fait une autre promesse à Abraham. Il lui avait dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et que se passe-t-il au chapitre 24, chapitre suivant? Eh bien, je lis, chapitre 24, verset 1, Abraham était vieux, d'un âge avancé, l'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Je lis au verset 34, même chapitre. Donc, entre-temps, Abraham envoie son serviteur pour essayer de trouver une femme pour son fils. Et là, son serviteur parle aux frères et aux pères de la potentielle future femme de son fils. Et il dit, verset 34, « Je suis un serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé mon Seigneur de bénédiction si bien qu'il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a donné dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a fait don de tout ce qu'il possède. » Et je lis le verset 53. Le serviteur, toujours ce même serviteur qui parle, sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Dieu a promis à Abraham, lui qui a tout quitté pour obéir à Dieu et qui a cru en ses promesses, il a promis de le bénir et de rendre son nom grand. Et voici qu'on nous présente un Abraham qui déborde de richesses, qui est béni par Dieu et qui devient source de bénédiction pour sa famille tant il est riche. Donc, cette promesse que Dieu avait faite de bénir Abraham alors qu'il avait tout quitté est en train de s'accomplir aussi. Et ce chapitre 24 nous montre cela. Et il reste encore une promesse que Dieu a faite, celle de faire d'Abraham une grande nation. Et on a vu à quel point Abraham a dû faire preuve de patience avant de voir l'accomplissement de cette promesse. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Sarah. Mais Dieu a fait preuve de grâce. Et il a fait un miracle pour qu'Isaac vienne au monde. Puis, pour devenir une grande nation, ben, il ne suffit pas d'avoir un seul enfant. il faut que cet enfant fasse des enfants, et ainsi de suite. Et regardez comment Dieu a tenu sa promesse et a conduit les événements dans sa providence. C'est juste incroyable, ce chapitre 24. La plupart d'entre nous, on connaît cette histoire peut-être, mais à première lecture, elle est juste incroyable. Et je vais juste lire les versets 37 à 52 de ce chapitre 24. C'est le serviteur qui raconte ce qu'il a vécu en essayant de trouver une femme pour Isaac. Donc, chapitre 24, verset 37. Mon Seigneur, donc Abraham, m'a fait prêter serment en disant: Tu ne prendras pas pour fils une femme parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays, mais tu iras prendre une femme pour mon fils dans la famille de mon père et dans mon clan. J'ai dit à mon Seigneur: Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Il m'a répondu: L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme du clan et de la famille de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu seras allé trouver mon clan. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien faire réussir le voyage que j'accomplis, voici que je me tiens près de la source d'eau. Que la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je dirai: Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra: Bois, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler en moi-même, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai dit: Donne-moi à boire. Elle s'est empressée de descendre sa cruche de son épaule et a dit: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée en disant: De qui es-tu la fille? Elle a répondu: Je suis la fille de Bethuel, le fils de Nakhor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets, puis je me suis inclinée et j'ai adoré l'Éternel. J'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fille. Je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, dites-le-moi et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. Laban et Bethuel répondirent: C'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Emmène-la en repartant, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Dieu a conduit toutes choses fidèlement, d'une manière parfaite. Abraham a envoyé son serviteur faire des centaines de kilomètres. Et Dieu a pourvu à une femme pour son fils, d'une manière miraculeuse, d'une manière qui nous montre à quel point il avait conduit, préparé toute chose. Et regardez encore, Genèse chapitre 17, un des textes qu'on a étudié les semaines passées, au verset 4. Je le lis. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. Et voici quels sont les derniers mots de l'histoire d'Abraham. Donc c'est le chapitre 25. Et vous pouvez vous dire que c'est de la généalogie, encore de la généalogie dans la Genèse, et que c'est très ennuyant. Mais regardez, je lis les versets 1 à 6 du chapitre 25. Abraham prit encore une femme du nom de Keturah et lui donna Zimra, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shuakh. Jokshan eut pour fils Séba et Dédan. Les descendants de Dédan furent les Asshourim, les Letushim et les Leumim. Les fils de Madian furent Eliada et Elda. Tout cela sont les descendants de Keturah. Abraham donna tout ce qu'il possédait Aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac, vers l'est, dans un pays d'Orient. L'auteur de la Genèse est en train de nous dire quelque chose. Il est en train de nous montrer explicitement tous les peuples qui descendent d'Abraham. Il est en train de montrer comment Abraham est devenu le père d'un grand nombre de nations, toutes ces nations qui sont dans l'Orient d'Israël. Et je lis les versets 12 à 18. Voici la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham, celui que l'égyptienne Agar, la servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël, leur nom en fonction de leur lignée. Nebajot, son fils aîné, Kedar, Abdel, Mibsam, Ishma, Douma, Massa, Adad, Ma, Jetur, Nafish et Kedma. Voici les fils d'Ismaël avec leur nom, d'après leur village et leur campement. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira. Il mourut et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitèrent le territoire situé en face de l'Égypte, en direction de la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Tout l'Orient, des descendants d'Abraham, tous ceux qui sont en face de l'Égypte, entre Avila et Shur, en direction de la Syrie, des descendants d'Abraham, des nations qui descendent d'Abraham. L'auteur nous montre explicitement toutes les nations qui descendent d'Abraham. Et je ne sais pas si vous commencez à sentir ce que l'auteur aimerait qu'on dise quand on a fini de lire l'histoire d'Abraham le soir au coin du feu lors d'une longue soirée d'hiver et qu'on ferme ce chapitre. Waouh, Dieu a fait des promesses. Lui, on avait du mal à voir comment est-ce qu'elles allaient pouvoir se réaliser. Mais maintenant, on voit que Dieu a conduit toutes choses. Il est le maître de l'histoire. Il s'engage et il tient ses promesses. Il fait des miracles et agit dans l'histoire pour y arriver. Vous savez, c'est comme quand on regarde un film qui commence par la fin de l'histoire et que le personnage se met à raconter comment il en est arrivé là. Et on voit tout au long du film des bouts de l'histoire. Ben, on est tenu en haleine parce qu'on ne comprend pas tous les rebondissements possibles pour que ça marche. C'est pour ça qu'on est attentif tout au long du film. Et ben, c'est exactement la même chose ici. En Genèse 12, Dieu nous avait donné la fin de l'histoire. Toutes les promesses que Dieu avait faites qui allaient s'accomplir. Et dans tout le reste des 13 chapitres suivants, il nous montre comment il a tenu sa promesse. Et il y a encore de quoi nous tenir en haleine parce que on voit que la promesse de Dieu s'accomplit là, mais elle s'accomplit de façon partielle. Et tout le reste de la Bible va nous montrer comment Dieu tient sa promesse de façon complète, totale. Voilà ce que nous apprend l'histoire d'Abraham au sujet de la providence de Dieu. On a vu que Dieu est un Dieu qui poursuit un but dans tout ce qu'il fait. Et il gouverne, il dirige providentiellement toute chose pour qu'elle s'accomplisse selon ses buts. Alors, quel genre de réaction ça doit produire en nous, ces découvertes qu'on a faites dans l'histoire d'Abraham? Eh bien, je propose cette découverte de la providence de Dieu est un remède à trois choses, au moins. Ces trois choses, c'est la peur, l'ingratitude et la superstition. Premièrement, la peur. La providence de Dieu nous encourage à ne pas avoir peur, mais à faire confiance à Dieu. En raison de la providence divine, on ne doit craindre aucun mal. Car rien ne peut nous atteindre sans que ce soit voulu par Dieu et sans que ça contribue finalement à notre bien. On est appelé à ne pas nous inquiéter concernant le futur quand nous sommes dans l'épreuve, mais à faire confiance au Dieu Tout-Puissant qui prend soin de nous. Et c'est une des choses qu'on s'est rappelé pendant toute cette série. La providence de Dieu est un remède contre l'ingratitude. Pourquoi ? parce qu'elle nous appelle à être reconnaissants pour toutes les bonnes choses qui se produisent. Si on croit sincèrement que toutes les bonnes choses viennent de Dieu, alors nos cœurs seront remplis de reconnaissance. Et on dira à notre âme, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » On le remerciera pour toutes les bonnes choses qui nous arrivent, pour la nourriture quotidienne, en toutes circonstances. Parce qu'on comprendra que toutes ces choses sont des fruits de la providence de Dieu et pas de mes performances, de ma capacité à bien gérer ma vie, à bien gérer mon argent, à réussir mes études pour avoir un bon travail, etc., etc. Tout nous vient de la providence de Dieu, lui qui est le maître souverain de l'histoire. Alors, ça produit beaucoup de reconnaissance. Et enfin, la providence de Dieu est un remède contre la superstition, contre la croyance au destin, au hasard, à la chance. Pourquoi ? Parce qu'elle nous montre que la chance et le hasard, eh ben, ça n'existe pas. Tout ce qui arrive dépend de la sage providence de Dieu. Et ça change notre regard sur l'univers et sur le monde qui nous entoure. Quand on prend ça, on a une compréhension bien plus personnelle de l'univers et des événements qui s'y produisent. L'univers n'est pas gouverné par un destin impersonnel ou par la chance, mais par un Dieu personnel. Rien n'arrive par hasard. La main de Dieu arrive tout au long de la journée, car il fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Et ça, c'est très différent de la superstition. C'est très différent de la croyance qui dit que les circonstances sont dirigées par des forces démoniaques ou par des forces impersonnelles, le destin, ou par une divinité capricieuse qui est sensible à des rituels superficiels que je fais pour essayer que la journée ou le destin soit en ma faveur aujourd'hui ou cette semaine. Une compréhension profonde de la providence de Dieu ne va pas nous rendre superstitieux. Au contraire, elle va nous permettre de faire davantage confiance à Dieu et elle va nous aider à lui obéir plus entièrement. Voilà les trois remèdes, les trois choses que la providence de Dieu, contre laquelle la providence de Dieu lutte. Alors je termine avec ces deux questions que pose un catéchisme célèbre, c'est-à-dire un manuel qui reprend des grandes doctrines de la foi chrétienne et qui les résume. Première question. Qu'entends-tu par la providence de Dieu ? Eh bien, c'est la force toute puissante et partout présente de Dieu par laquelle il maintient et conduit, comme par la main, le ciel et la terre avec toutes ses créatures, de sorte que les herbes et les plantes, la pluie et les sécheresses, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger et le boire, la santé et la maladie, la richesse, la pauvreté. Bref, toutes choses ne nous viennent pas du hasard, mais de sa main paternelle. Quel sujet de louange à Dieu. Et deuxième question, à quoi nous sert-il de connaître la création et la providence de Dieu ? À être patient dans l'adversité, reconnaissant dans la prospérité et à garder confiance, quoi qu'il arrive, en notre Dieu et Père fidèle. Aucune créature ne peut nous séparer de son amour, puisqu'il les tient toutes tellement dans sa main qu'elles ne peuvent agir ni se déplacer sans sa volonté. Voilà les vérités merveilleuses qu'on découvre dans l'histoire d'Abraham et dans le reste de la Bible. Et il y a un événement en particulier dans lequel la providence de Dieu se manifeste d'une manière formidable et on peut dire que c'est le sommet de la manifestation de la providence de Dieu. Et cet événement, c'est la croix de Christ. Et ce qui me fait dire ça, c'est un texte dans la Bible qu'on peut lire ensemble, qui se trouve en Actes chapitre 4. Et je vais le lire pour terminer. Actes chapitre 4, verset 24. Les croyants se rassemblent pour prier Dieu après la mort et la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Et voilà ce qu'ils prient. Actes 4, 24. Maître, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant: Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Providence de Dieu dans la création. C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Providence de Dieu, souveraineté de Dieu dans la rédemption. Ce qu'il se passe lors de la crucifixion de Christ est le fruit. Providence de Dieu a été conduite souverainement par Dieu. Dieu avait prévu cela et a fait en sorte que son Fils unique meure sur une croix pour assurer le salut de tous ceux qui placeraient leur confiance en lui. Notre Dieu est souverain sur la création et sur notre rédemption.